VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par les rebelles tchadiens basés dans le sud de la Libye. Des éléments du CCMSR, le Conseil du commandement militaire pour le salut de la République, groupe hostile au président tchadien Idriss Déby Itno, ont été bombardés par des avions du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. L'aviation du maréchal a mené le week-end dernier des frappes contre un barrage tenu par la rébellion tchadienne à plus de 400 km au sud-est de Séba et d'autres positions des rebelles dans une oasis de la région de Terbou, a affirmé à l'AFP un responsable de l'armée nationale libyenne ANL du maréchal Haftar. Le CCMSR reconnaît avoir été visé par des raids aériens qui n'ont pas fait de victimes. Et il affirme que ces attaques par les hommes de Haftar sont le signe que le régime tchadien d'Idriss Déby Itno sous-traite au maréchal la charge de détruire les rebelles tchadiens en Libye. Un autre groupe rebelle tchadien, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, présent dans la région de Joufra en Libye, reste en bon terme avec le maréchal Haftar, avec qui il a passé un accord informel de non-agression. Le Tchad a toujours eu, depuis son indépendance en 1960, des rebelles armés au-delà de ses frontières. Les présidents Hissène Habré et Idriss Déby sont eux-mêmes d'anciens rebelles. La lutte contre les djihadistes en Libye maintenant, le commandement militaire américain pour l'Afrique confirme la mort de deux hauts responsables terroristes d'Al-Qaïda dans le pays. Plus de détails avec Abdourahman Dia.
Le gouvernement d'union nationale libyen avait annoncé un raid des forces américaines qui a visé une réunion des responsables terroristes dans une maison dans la région d'Oubari, à quelques 1000 km au sud de Tripoli. AFRICOM, le commandement de la force américaine sur le continent, confirme la frappe et précise qu'il s'agit d'une opération de précision qui a permis de tuer deux chefs djihadistes, dont Moussa Abu Daoud, un haut gradé d'ACMI affilié à Al-Qaïda. La force américaine précise dans un communiqué transmis à VOA Afrique qu'aucun civil n'a été tué. Moussa Abu Daoud était chargé de l'entraînement des recrues d'ACMI en Libye pour mener des attaques dans la région, selon l'AFRICOM. Il a fourni une indispensable aide logistique, des fonds et des armes à ACMI, permettant aux terroristes de menacer des intérêts américains et occidentaux dans la région, précise encore le communiqué. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est livrée aux milices alors que deux autorités se disputent le pouvoir. D'un côté, le GNA, reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli, et de l'autre, une autorité exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du maréchal Khalifa Haftar.
Mali, au moins un tué et deux blessés dans le centre du pays dans la nuit de mercredi à jeudi suite à une attaque djihadiste contre une localité récemment visitée par le Premier ministre Soumeilou Boubey Maïga lors de sa tournée dans la région. Selon le ministère de la Sécurité, l'attaque a visé l'hôtel La Falaise à Badiangara. Un assaillant a été abattu et il y a eu deux blessés, un garde et un civil. Selon un témoin contacté par l'AFP, au moins cinq assaillants armés se sont dirigés à pied vers l'hôtel en tirant des coups de feu. Le premier ministre Soumeilou Boubey Maïga avait fait escale à Badiangara le 26 mars, dernier jour de sa tournée dans le nord et le centre du pays. Au Nigeria, des hommes armés ont tué 15 éleveurs dans l'état de Zamfara dans le nord du pays. C'est ce qu'annonce ce jeudi le porte-parole de la police de l'état. Selon Mohamed Chehou, des bandits armés ont attaqué le village du Baron Dadji hier et abattu 15 personnes. Une incursion qu'il a attribuée à des voleurs de bétail. Gambie, deux généraux de l'ex-président gambien Yahya Jammeh, qui avaient suivi leur chef en exil avant de retourner dans le pays en janvier, ont été inculpés de désertion et seront jugés la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée gambienne mercredi. Plus de détails avec Irénée Herman Oumbo.
Les généraux Ansouma Natamba, ancien commandant de la garde présidentielle, et Oumpa Mendy, ex-responsable de la protection rapprochée de Yahya Jammeh, sont poursuivis pour désertion de poste selon le commandant Lamine Saniang. Porte-parole de l'armée, il a indiqué que les deux hommes seront jugés en cour martiale à partir du 4 avril 2018. Comment ont-ils pu quitter l'aéroport pour se rendre à leur domicile respectif où ils ont été arrêtés, s'interroge le chef d'état-major de l'armée gambienne, le général Massané Kente, sans expliquer les raisons de leur retour. Le président Adama Barrow, peu après, a qualifié l'incident de sonnette d'alarme, affirmant qu'il avait abouti à la suspension des responsables des services d'immigration.
Sierra Leone, les Sierra Leone élisent samedi leur président avec 4 jours de retard sur le calendrier initial. Ce second tour s'annonce très indécis entre le candidat de l'APC au pouvoir, Samora Camara, et son rival du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio, arrivé de peu en tête au premier tour avec 43,3% des voix.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, le procureur général Flory Kabange Numbi a annoncé avoir ouvert une information judiciaire pour usurpation de nationalité à l'encontre de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre, actuellement en exil. La justice congolaise affirme que M. Katumbi est de nationalité italienne et comme la RDC ne reconnaît pas la double nationalité, sa candidature aux élections présidentielles serait donc en fait caduque. Pour une analyse, Kiabadou a joint à New York l'avocate d'origine congolaise Bibi Moussafiri, spécialiste en droit d'immigration.
La double nationalité, en général, cela dépend de chaque pays. Il y a des pays qui ont des législations qui interdisent, donc c'est une prohibition. Et il y a des pays qui, tout simplement, ne donnent pas effet à la double nationalité. Donc, vous pouvez être congolais, et si la législation ne dit pas que vous êtes complètement interdit de prendre une autre nationalité, vous pouvez la prendre, mais simplement, elle n'aura pas effet dans votre pays. Alors, ça peut être le contraire où la législation dit c'est prohibé. Ça veut dire que si vous êtes congolais et que vous prenez une autre nationalité, à ce moment-là, vous perdez la nationalité congolaise parce que la Congo n'accepte pas. Et à ma connaissance, la législation, en fait, tout simplement ne permet pas. Ça veut dire qu'elle n'a pas prévu la double nationalité.
Quels sont les risques pour M. Katumbi en ayant éventuellement une double nationalité?
Il y a un article qui en fait dit qu'il a eu la nationalité pendant 17 ans, de 2000 à 2017. Il y a une date reporte qu'il n'est plus italien à ce moment-ci. Si cela était dans le passé, ça ne devrait plus avoir de conséquences. En 2016, quand il se présentait comme candidat, il était encore sous la double nationalité. S'il était sous la double nationalité à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas se réinscrire pour, en fait, avoir un dossier totalement clair que, en se présentant comme candidat maintenant, il n'a pas la double nationalité.
Il n'est pas non plus au bout de ses peines. Il a derrière lui une condamnation dans l'affaire Stoupi,
du nom du
citoyen grec qu'il a accusé de l'avoir spolié, sa maison à Lubumbashi, et ça le rendrait inéligible.
Les gens assument. Ils disent par exemple que si vous avez été condamné pour avoir fait telle affaire, est-ce que dans le dossier Stoupi, il a été condamné, oui, mais est-ce que c'est un crime? Il faut savoir. Quelles sont effectivement les dispositions de cette affaire-là par rapport au juge qui a jugé? Parce que vous pouvez être condamné, mais pas nécessairement un crime. Les choses devraient pouvoir être beaucoup plus précises, mais effectivement, il ne reste pas moins qu'il doit gérer l'opinion publique. Il doit pouvoir clarifier.
L'avocate d'origine congolaise Bibi Moussafiri à New York. Et on reste à New York où l'ambassadrice américaine à l'ONU a exhorté mercredi les autres pays membres des Nations Unies à faire mieux et à payer une plus grosse part des opérations de maintien de la paix. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Un seul pays ne devrait pas avoir à payer pour un quart du budget de maintien de la paix de l'ONU. Et nous sommes impatients de voir une distribution plus équitable, a déclaré Nikki Haley, qui a déjà négocié une baisse de 600 millions de dollars des fonds pour les casques bleus. Les États-Unis vont rester le plus important contributeur au budget de maintien de la paix de l'ONU, mais l'administration Trump a décidé de plafonner ses versements à 25% du total. Après des négociations très difficiles, le budget 2017-2018 pour ces opérations a été fixé à 6,8 milliards de dollars. Cette réduction de la contribution américaine arrive en même temps que la tentative de modernisation des missions des casques bleus par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les plus importants contingents déployés en République démocratique du Congo, au Mali, en Centrafrique et au Soudan du Sud ont beaucoup de mal à protéger des civils pris dans des combats. Et la crédibilité et la réputation des missions ont aussi été ternies ces dernières années par les révélations de nombreux abus sexuels.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.